Je vous invite à chercher dans votre Bible, dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 5, et on va lire à partir du verset 17. On est dans une nouvelle série, on a déjà vu les deux premiers épisodes du Sermon sur la montagne. Le jour où la série est sortie la première fois, ça a vraiment fait beaucoup de bruit et ça a bouleversé beaucoup de vies. Aujourd'hui encore, ce message, cette série touche des cœurs, touche nos cœurs. C'est le message de Jésus. Et je vous propose donc de lire Matthieu chapitre 5, les versets 17 jusqu'à 48. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne tueras point. Celui qui tuera est passible du jugement. Mais moi, je vous dis, que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement, que celui qui dira à son frère « Raca » mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui dira « Insensé » mérite d'être puni par le feu de la Géhenne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier quadrant. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne commettras point d'adultère ». Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement. » Ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre oui soit oui, non, non, ce qu'on y ajoute vient du malin. Vous avez appris qu'il a été dit « œil pour œil et dent pour dent ». Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un mille, fais-en deux avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Prions Dieu. Merci Seigneur notre Dieu pour la possibilité d'être à tes pieds, d'entendre Seigneur ta parole et ce message que tu as donné à cette foule, à tes disciples qui étaient là réunis sur cette montagne. Nous voulons nous aussi Seigneur apprendre de toi. Nous te prions pour que tu éclaires nos cœurs, notre intelligence, que tu soutiennes chacune de tes paroles Seigneur et que tu les portes au plus profond de nos cœurs. Merci de le faire pour la gloire de ton nom Seigneur Jésus. Amen. Ici, vous l'avez compris, le message, il est dans les tout premiers versets, des versets 17 à 20. Et puis ensuite, il va utiliser six exemples dans lesquels il va appliquer son message. Et au fond, le message, il est assez simple. On le trouve au verset 20. « Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Il est en train de dire, nous avons besoin d'un niveau de justice que nous ne pouvons pas atteindre. Aussi, Jésus l'a atteint pour nous. Alors, nous poursuivons cette justice. Et la fin du passage, la conclusion, c'est le verset 48, le dernier verset du chapitre. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Pour participer aux Jeux Olympiques, il faut réaliser les minima. Si vous ne réalisez pas les minima, vous n'êtes pas sélectionné, votre nation juge que vous n'êtes pas digne de participer à cette magnifique compétition. Donc il y a toujours un stress pour les athlètes jusqu'à ce qu'ils aient accompli, réussi les minima. Si les minima sont trop hauts et que personne n'atteint les minima, il n'y a pas de compétition. Si les minima sont trop bas, Alors, tout le monde participe, mais ça n'a plus aucun intérêt. On imagine souvent que l'entrée dans le royaume des cieux nous est possible si nous aussi, on réalise les minima de la justice de Dieu. Et on connaît le même stress tant qu'on n'a pas réussi les minima. La justice des scribes et des pharisiens, c'était les personnes religieuses de l'époque, se voulait être une application rigoureuse de la loi de Dieu. Mais en réalité, ils altéraient la loi. Ils cherchaient habituellement à réduire les exigences de Dieu. On voit ça dans le verset 18 et 19, hein, où Jésus dit « Il ne disparaîtra pas un seul iota ». Le iota, c'est la plus petite lettre de l'alphabet grec. Rien ne va disparaître de la loi. Il est en train de dire, vous cherchez toujours à enlever des choses. Mais non, je vous dis, rien ne va disparaître. Il voulait en fait abaisser les commandements de Dieu pour les rendre plus accessibles, moins astreignants, pour qu'eux-mêmes puissent réussir les minima. Certaines personnes qui suivaient Jésus avaient remarqué que Jésus ne parlait pas comme les scribes et les pharisiens, justement. Il ne respectait pas le sabbat à la manière des pharisiens. Et donc la foule pensait, oh, certainement Jésus, là, il va annuler la loi. Et sa réponse au verset 17, c'est non, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour l'accomplir. La loi, c'est la loi de Dieu. Je ne suis pas venu abolir la loi comme si la loi n'était pas bonne. La loi est bonne. La loi révèle la volonté de Dieu. Elle révèle la volonté du Dieu éternel et immuable. Et celle-ci ne change pas. Ne change pas au fil des siècles. Et Jésus est venu expliciter cette loi. Au travers de sa vie, nous apprenons ce que ça signifie que aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme. Au travers de sa vie, on apprend ce que ça signifie que d'aimer son prochain comme soi-même. On comprend ce que ça signifie et à quoi sert le sabbat, le jour du repos. On comprend ce qu'est l'honneur aux parents, la fidélité, l'intégrité des paroles. Donc il n'est pas question que cette loi soit modifiée, altérée, réduite. Non, cette loi est bonne. Les religieux étaient satisfaits au fond de leur pratique. Et la foule était en admiration devant eux parce qu'ils imaginaient qu'ils avaient réussi les minima. Mais Jésus dit au verset 20, « Si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas, vous ne serez pas acceptés dans le royaume de Dieu, vous n'entrerez pas au ciel. » Et du coup, il va montrer que la justice des religieux est très très loin d'être celle attendue par Dieu pour être acceptée dans son ciel. Il donne six exemples au travers desquels il va illustrer quelle est la justice, au fond, quel est l'esprit de la loi, qu'est-ce que demande, qu'est-ce que réclame la loi de Dieu. Et vous avez remarqué, il est dit, à chaque fois qu'il va commencer, au verset 21, au verset 27, au verset 31, il dit « Vous avez entendu ». Et puis il cite « Tu ne tueras point ». « Vous avez appris » ou « Il a été dit, vous avez encore appris ». Mais c'est intéressant, c'est que il ne cite pas le texte comme le cite la loi, comme il l'a cité au chapitre 4 quand il était dans la tentation. Dans la tentation, vous vous souvenez comment il a répondu? Il a dit « Il est écrit ». Il est écrit. Et là, il dit « Vous avez appris que... » Vous avez appris de qui? Mais des scribes et des pharisiens. C'est-à-dire, là, ils ont déjà modifié la loi. Ils ont modifié l'esprit de la loi dans la manière dont ils la présentent. On va voir à présent que la justice de Dieu s'intéresse à nos cœurs. À nos cœurs, premièrement. La justice de Dieu s'intéresse à nos cœurs, premièrement. Vous savez, les religieux étaient des champions pour les actes. Ils faisaient des actes sans cesse. C'était des rites, des choses qui étaient visibles. Dans ce premier exemple, ou antithèse sur la mort, sur ne pas tuer, ou sur la colère, Jésus étend la justice non seulement aux actes, mais aussi aux pensées et aux paroles. Se mettre en colère de façon injuste. Il y a certainement une manière de se mettre en colère qui est juste. Malheureusement, j'y arrive pas, quoi. Il y a une manière où on ne veut pas de mal à la personne. Il y a une manière où on est simplement hostile au péché. Mais Jésus ici parle de cette colère qui nous est beaucoup plus familière, qui est fière, qui est haineuse, qui est vengeresse. Celle-ci nous porte généralement à tenir de mauvais propos, à insulter parfois. Je ne sais pas si ça vous est arrivé récemment. Et là, il dit, celui qui dit à son frère « raca ». Raca, littéralement, ça signifie vide, creux, il n'y a rien, t'es du vide. Ou on dirait plutôt peut-être crétin, imbécile. Jean, il dit dans son épître, on a vu ça il n'y a pas longtemps, « Quiconque est son frère est un meurtrier. » Wow. La colère et les insultes expriment au fond le désir odieux de se débarrasser de la personne qui nous dérange. Nos pensées, nos regards, nos paroles indiquent ce que nous n'osons pas dire tout haut. J'aimerais que cette personne ne soit plus. J'aimerais qu'elle meure. C'est sûr que si vous dites ça, dans ces termes-là, ça a du mal à passer. Mais si vous le pensez, si dans votre cœur vous avez cette haine, cette colère contre cette personne, c'est une violation du sixième commandement. Évidemment, un tribunal humain n'a pas la possibilité de nous condamner pour nos pensées haineuses. Sinon, ça ferait beaucoup de monde dans les prisons et peu de gens pour les juger. Mais le tribunal de Dieu a ce pouvoir et il va le faire. Juger les pensées du cœur, nos paroles. Et du coup, l'implication de Jésus est, est donnée au verset 23. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Jésus est en train de dire ici, aucun acte de piété n'est acceptable. Aucun acte de piété n'est possible si tu nourris de tels sentiments. Va premièrement te réconcilier avec ton frère. Voyez ce qu'il est en train de dire ? Vous présentez des actes, vous faites des choses, etc. Et il dit, mais si vous faites ces choses-là, avec ces pensées-là, ça ne sert à rien, c'est condamné. Alors, va vite te réconcilier. Et puis ensuite, il dit, va vite aussi te réconcilier avec ton juge. Parce qu'il menace de la géhenne, de l'enfer. Évidemment, là, on se rend compte qu'on est loin, on est beaucoup moins à l'aise avec le commandement « tu ne tueras point ». Tu ne tueras point. Vous savez, généralement, pour se déclarer qu'on est quelqu'un de bien, on dit « j'ai pas tué, j'ai pas volé ». La loi est en train de dire « tu as tué avec tes pensées, avec tes paroles ». Le deuxième exemple porte sur la convoitise, versets 27 à 30. Et là encore, la vision concerne l'adultère chez les pharisiens. Et dans leur pensée, l'adultère n'était restreint qu'à l'acte sexuel proprement dit. Tant que tu n'as pas eu de relation sexuelle avec une autre femme que la tienne, eh bien tu n'as pas commis d'adultère. Ça, c'est le septième commandement. Mais Jésus étend l'adultère à l'imagination et au regard de convoitise. Tout comme nos paroles peuvent tuer, nos regards et nos cœurs peuvent vivre l'adultère. Tout d'un coup, on se sent plus concerné par l'adultère. Non seulement les hommes mariés, mais toute personne, homme ou femme, mariée ou célibataire. Jésus, ici, il condamne non seulement toute pratique sexuelle immorale, mais il montre que l'origine de nos actes se trouve dans le cœur pécheur. Ce que je regarde avec mes yeux influence mon cœur. Mais c'est parce que mon cœur est corrompu que je vais commettre l'adultère. Le roi David, il a commis l'adultère non pas parce qu'il a vu la belle épouse de son voisin se baigner, mais parce que son cœur était corrompu. Il aurait pu voir l'épouse, s'en détourner et passer son chemin, et aller voir une de des siennes. Mais son cœur était corrompu. La perdition éternelle est une réalité aux yeux de Jésus. Et il le montre dans tout ce qui... Dans les paroles qui suivent, il dit « Si ton cœur est pour toi une occasion de chute, arrache-le, jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne, dans le feu de l'enfer. » Si vous étiez aveugle, en auriez-vous fini avec la convoitise ? Non. Demandez à notre aveugle. Non. La voix sensuelle d'une femme ou le parfum enivrant d'une femme exciterait aussi votre convoitise. Parce que c'est dans le cœur qu'il faut déraciner le mal. Néanmoins, ce que l'on voit, ce que l'on pense, stimule ce qu'il y a au fond de mon cœur. Et dans mon cœur, il y a le péché. Qui, stimulé, va prendre des décisions de passer à l'action. Donc il faut traiter mon cœur au lieu de traiter mes actions seulement. C'est pourquoi je devrais veiller à ce que je mets devant mes yeux et ce qui nourrit mes pensées. Il faut peut-être prendre des mesures radicales, mais avant de vous crever les yeux, mettez des contrôles sur votre ordinateur ou installez votre ordinateur au milieu de votre salon. Mais par-dessus tout cela, souvenez-vous que le problème, c'est votre cœur. Dieu s'intéresse non seulement à nos actes, mais avant tout à nos cœurs, parce que nos paroles et nos actes viennent du cœur, et notre cœur est coupable. La deuxième section de ce passage, c'est que la justice de Dieu s'intéresse au fond plus qu'à la forme. On voit ça dans les versets 31 à 37. Et la troisième exemple, la troisième antithèse qu'il donne, c'est sur le divorce. Juste de faire une petite parenthèse ici, ici ce n'est pas tout l'enseignement de Dieu sur le mariage qui est donné. Et je ne veux pas ajouter à la détresse de ceux qui souffrent d'un mariage difficile ou de ceux qui ont été conduits au divorce. Mais pour qu'on comprenne, les pharisiens mettaient l'accent sur une clause qui était donnée par Moïse concernant le divorce. Et ils insistaient sur la forme, sur le certificat de répudiation, comme s'il s'agissait d'un commandement de Dieu lui-même. L'idée, c'était, quand tu divorces, je vais le donner version 10 commandements, quand tu divorceras, tu donneras un certificat à ta femme. Et donc, il mettait l'accent sur ces choses-là. Et du coup, pour n'importe quelle raison, il répudiait la femme, mais il faisait les choses bien, il lui donnait un bon papier. Est-ce que c'était vraiment le sens de la loi? Certainement pas. Cette lettre de divorce, c'était pour protéger la femme des abus de leur mari, du style « Oh, écoute, tu m'agaces, retourne chez ta mère. Ah, allez, reviens, là, j'ai faim. » Vous voyez le truc? La lettre de divorce, c'était de pouvoir lui dire « Si tu divorces, réfléchis bien. » Tu ne pourras plus la reprendre et elle sera libérée de toi et pourra se remarier avec un autre. L'esprit de la loi était de préserver le mariage, pas de faciliter le divorce, d'encourager la fidélité, pas de provoquer l'adultère. C'est le sens du verset 32 où il dit « Mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. » Si tu romps avec ton épouse sans cause, juste parce que là t'es agacé, tu la pousses à l'adultère. Alors pourquoi Moïse a-t-il prescrit de donner une lettre de divorce? Mais c'est une confession qu'il fait à cause de notre cœur pécheur. Il sait que certains mariages vont échouer. Il veut nous sortir d'une impasse dans laquelle on se trouve et dans laquelle il n'y a jamais de paix. Il dit, mais on est appelé à vivre en paix. Alors voilà une situation extrême pour nous sortir de cette ornière. Est-ce qu'on ne fonctionne pas tous ainsi? On va faire noblement des choses que Dieu ne voudrait pas que l'on fasse. Et l'on se donne bonne conscience par la méthode, par la forme. On cherche à sauver les apparences. Au lieu de nous aider à réussir notre divorce, la loi sert à nous révéler que nous avons échoué dans notre mariage. Dieu s'intéresse avant tout au fond. Notre fond est mauvais. Et nous essayons de camoufler notre mauvais fond avec une forme qui soit acceptable. Et c'est cela que dénonce la loi. La quatrième antithèse concerne les serments, au verset 33 à 37. Les religieux de l'époque disaient que si on jure par quelque chose de sacré, là encore une fois, c'est la forme qui compte, si vous dites solennellement « devant Dieu », alors là, vraiment, t'es tenu à cette parole. Mais si t'as pas dit « devant Dieu », eh bien, t'es pas tellement engagé, en fait. Mais la réalité, c'est que Dieu est vérité et la loi nous demande de dire la vérité et de tenir nos promesses. Jurer est devenu une nécessité pour les menteurs que nous sommes. On prête serment de façon solennelle parce qu'en réalité, on n'est pas fiable. Le serment est un aveu pitoyable de notre malhonnêteté. Et si nous étions fiables, notre oui vaudrait un oui, et notre non vaudrait un non. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Parfois, on est appelé devant une cour et on doit prêter serment. Dans quelques jours, le président des États-Unis va prêter serment devant la Bible, main sur la Bible, main. Peu importe, en fait, que l'on prête serment ou que l'on ne prête pas serment, on doit tenir notre parole, c'est ce que Jésus est en train de dire. Et le problème avec ça, c'est que on voit bien qu'on a du mal à tenir notre parole et même nos serments. Pourquoi? Mais parce qu'on n'a pas forcément la capacité de les tenir. Il dit, tu ne peux pas rendre un cheveu blanc ou un cheveu noir de ta tête. Tu n'as aucun pouvoir, en fait. Alors tu prêtes serment, mais tu vas être incapable d'accomplir ta parole. Si Dieu le veut, je ferai ça. Voilà. Et encore une fois, Dieu s'intéresse à nos cœurs, et nos cœurs sont trompeurs, ils sont menteurs. Le troisième portée du message de Jésus, la justice de Dieu s'intéresse à l'amour parfait. On voit ça dans les versets 38 à 48. Le défi qui nous est lancé ici, dans les deux derniers exemples, c'est d'aimer le méchant, verset 39, et d'aimer nos ennemis, verset 44. C'est sans aucun doute l'enseignement le plus extraordinaire de Jésus, celui qui nous remue tellement. Nulle part dans notre... on voit notre besoin de la puissance du Saint-Esprit d'une manière plus flagrante. On aurait envie de dire, Jésus, doucement là, tu vas trop loin. On aurait envie de dire, mais c'est pas possible. Tu demandes un truc. La loi du talion que l'on trouve dans l'Ancien Testament, œil pour œil, dent pour dent, était une manière de rechercher la justice plutôt que la vengeance. Naturellement, nous sommes plutôt portés à nous venger en infligeant une peine supérieure à l'offense qui nous a été faite. Et la plupart du temps, il y a une escalade. C'est pour ça qu'on arrive à des choses complètement folles. La loi du talion, c'était de dire, non, tu as connu un préjudice, alors on va essayer d'estimer à combien se porte ton préjudice. Mais on ne va pas aller au-delà. On ne va pas te venger. Et la plupart du temps, la loi du talion était commuée en paiement de dommages et intérêts. Et au fond, c'est du ressort des tribunaux d'évaluer le préjudice et d'infliger une sanction qui est proportionnée. Si on me casse une dent, le fait que l'on casse une dent à mon agresseur ne va pas m'aider à mâcher mieux. Mais par contre, un dommage et intérêt, ça me permettrait d'acheter un mixeur. Et là, ça a de l'intérêt. Donc, les pharisiens et les hommes en général, peut-être hormis la mafia, sont pour ce mode de justice équitable. Mais Jésus, s'adressant à la foule et à ses disciples en tant qu'individus, leur demande de ne pas résister aux méchants, de ne pas rendre le mal pour le mal, mais le bien pour le mal. Et là, ça nous remue. Il est quand même important ici de distinguer entre la personne et la fonction, entre l'individu et l'institution. Par exemple, un policier en uniforme est tenu de s'opposer aux méchants parce que c'est ce que lui commande sa fonction. Si les policiers n'arrêtent plus les brigands, ça ne peut pas marcher. Par contre, ce même policier, lorsqu'il a retiré son uniforme et qu'il rentre tranquillement chez lui dans sa voiture, et qu'il subit une queue de poisson et une salutation du bras, il ne prend pas l'individu en chasse. Parce que c'est sa personne qui a été offensée, non pas sa fonction. Et c'est à la personne que Jésus s'adresse ici. Jésus veut que ses disciples agissent avec miséricorde quand on est offensé dans notre personne. Franchement, c'est pas simple. Tendre l'autre joue, c'est pas simple. Si mon enfant défie ma fonction de père, je dois résister, parce que c'est mon rôle d'instruire, de corriger mon enfant en vue de son bien. Mais si une critique injuste, ou que j'estime injuste, est portée contre ma personne, je ne réponds pas, je ne résiste pas. Au contraire, je montre encore plus d'amour. Voilà ce qui va désarmer mon opposant. Voilà ce qui va empêcher une escalade de violence verbale ou physique. Et l'amour est la seule force capable de transformer un ennemi en ami. Jésus a fait la conquête de notre cœur en nous aimant, en nous faisant du bien alors que nous l'avions offensé. C'est ça la grâce. C'est la grâce qui nous a bouleversés et qui change nos cœurs. Reconnaissons que nous avons du mal à tendre l'autre joue. Le sixième et dernier exemple, dernière antithèse, Jésus monte encore au niveau suprême cette fois-ci. Les religieux enseignaient « Tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. » Là, je voudrais vous montrer comment ils ont enlevé une partie de la loi. La loi dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Là, c'est pas comme... Non. Vous voyez, le « comme toi, tu aimeras ton prochain comme toi-même », ça monte le niveau de l'amour extrême. Et puis, ils ont changé aussi l'idée du prochain. Tu aimeras ton prochain, c'est qui mon prochain? Ils ont posé aussi cette question à Jésus. Mon prochain, c'est... Forcément, c'est un juif. Mais en plus, c'est quand même peut-être quelqu'un de ma tribu, quoi. C'est un proche, c'est un gars de ma famille, en fait. C'est mon frère. Même père, même mère. Si je réduis le fait d'aimer mon prochain à cela, alors je peux haïr tous les autres. C'est leur conclusion et tu haïras les autres, ton ennemi, tous ceux qui ne sont pas comme je voudrais qu'ils soient, tous ceux qui peuvent représenter une menace pour moi. Mais Jésus nous demande d'aimer nos ennemis, de bénir ceux qui nous maudissent, de faire du bien à ceux qui nous détestent et de prier pour ceux qui nous persécutent, parce que c'est ainsi que Dieu nous a traités. Et il veut qu'on traite les autres de cette manière-là, afin de lui ressembler, de ressembler à notre Père, qui répand sa bénédiction sur les méchants et sur les bons, qui fait lever le soleil pour les bons et pour les méchants, qui envoie la pluie sur le sol des justes et des injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment et saluez seulement vos frères, où est la chose extraordinaire que vous faites? Tout le monde sait faire ça. Alfred Plumer résume bien cette vérité. Il dit « Rendre le mal pour le mal, c'est diabolique. Rendre le bien pour le bien, c'est humain. » Entre parenthèses, souvent, on est très porté à faire ça. Parce que si on me fait du bien et que je ne rends pas du bien, je me sens redevable à l'autre. Et j'aime pas être redevable. Alors je lui fais du bien aussi. C'est humain. Mais faire du bien ou rendre du bien pour le mal, ça c'est divin. Ça c'est divin. Augustin, Saint Augustin l'a dit. Beaucoup savent présenter, et encore il est généreux je trouve, beaucoup savent présenter l'autre joue, mais ne savent pas aimer celui qui les frappe. Dieu s'intéresse à notre amour. Mais quand on regarde les exigences de Dieu, le sens de la loi, c'est extrême. On n'y arrive pas, on n'est pas capable. Notre amour est pitoyable. Alors l'enseignement de Jésus, il nous émerveille parce qu'on voit la grandeur, la beauté de son royaume. On aimerait pouvoir vivre comme ça. Mais il nous accable, il nous désespère, parce que nous voyons que nous sommes incapables de vivre à ce niveau de justice. Dieu exige non seulement la justice intérieure, celle du cœur, mais aussi une justice parfaite. Pour l'accès au royaume de Dieu, nous devons être saints comme le roi lui-même. Soyez donc, et ça c'est la conclusion de cette section, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Voilà le niveau de justice, voilà les minima à réaliser. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Dieu exige l'impossible. Il exige la perfection alors que tout en nous est imperfection. Et voilà précisément le point du Seigneur dans toutes ses illustrations et dans tout le sermon. Il veut amener son auditoire à éprouver un sentiment accablant de faillite spirituelle, à réaliser notre pauvreté spirituelle, à réaliser que l'on a si Dieu vient nous secourir, vient nous sauver, on a besoin d'un sauveur. Nous voyons que Jésus seul a vécu de cette manière. Ses actes et ses paroles venaient d'un cœur pur. Même dans sa colère, il est resté aimant. Il ne convoitait rien d'autre que la volonté de Dieu. Il aimait parfaitement, fidèlement. Il tenait toujours toutes ses promesses. Injurié, il ne rendait pas l'injure. Maltraité, il ne faisait pas de menaces, mais il s'en remettait à celui qui juge justement. Il priait pour ses bourreaux. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Seul Jésus a atteint les minima, ou les maxima, devrais-je dire. Seul Jésus a atteint la perfection. Mais la bonne nouvelle, c'est que celui qui exige la perfection, il donne. Cette perfection qui nous manque tellement, Dieu nous la donne simplement par la foi dans le sacrifice de Jésus-Christ. À la croix, Christ prend nos péchés sur lui et transfère sa justice sur notre compte. Et simplement, par la foi, je peux être déclaré juste. Cette perfection nous est donnée par Christ, simplement pour prix de notre foi. Ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est accepté, mais par la foi en Jésus-Christ. Alors, ce matin, si vous désespérez de réussir les minima de la justice de Dieu, c'est que vous avez bien compris le message de Jésus. Alors, croyez en Jésus, qui a satisfait pour vous les maxima de Dieu. C'est seulement par cette foi que je peux accomplir ce verset 48, d'être parfait comme notre Père Céleste est parfait. Et une fois que j'ai reçu la perfection de Dieu, je vais faire pour poursuivre cette loi juste, cette loi bonne. C'est toi qui reflète le caractère et le cœur de Dieu. Je vais m'intéresser à mon cœur, premièrement, plutôt qu'à mes actes, parce que je sais que de mon cœur découlent tous mes actes. Seigneur, transforme mon cœur, change mon cœur pour que mes actes, ma vie soient différentes. Je vais m'intéresser au fond et non plus seulement à la forme. Je vais essayer de rechercher l'amour parfait. Et là où je vais être trop court, je vais demander à Dieu de me venir en aide. Je vais avoir tellement besoin de lui pour qu'il change mon cœur, pour qu'il m'attache au fond et pour que je puisse aimer comme il voudrait que j'aime. Et du coup, ma vie, elle est centrée sur Dieu, sur ce qu'il a accompli à la croix pour moi. C'est merveilleux. C'est donc possible. Ça doit nous encourager à vivre passionnément pour lui. Que Dieu nous bénisse. Prions pendant que nos frères musiciens vont nous rejoindre. Seigneur notre Dieu, nous voulons encore te remercier. Ta parole, elle est puissante. Ton message, il est puissant de nos cœurs. Seigneur, toute notre religiosité, toutes nos œuvres ne peuvent pas accomplir ta justice. On voit bien que ta loi, elle dénonce notre propre cœur de pécheur, notre difficulté à te ressembler, notre incapacité à te ressembler. Et je veux te prier, Seigneur notre Dieu, que tu nous secours, que tu nous donnes ta grâce, que tu nous donnes la puissance de l'Esprit Saint, Seigneur, pour que nos cœurs soient changés. Je veux te prier, ce matin, s'il y a quelqu'un qui était désespéré en entendant ces paroles de Jésus, qui comprend qu'il est incapable de satisfaire la justice de Dieu, je veux te prier pour qu'il regarde à Christ, à la croix, crucifié, portant pour toutes nos fautes. Lui, le seul juste, celui dont on n'a trouvé aucun péché, aucune faute, aucune chose à redire, et qui s'est livré en sacrifice pour nous. Celui qui a vécu la vie que nous aurions dû vivre et qui nous la donne, qui la crédite sur notre compte. Je prie pour que tu réjouisses ce cœur de savoir qu'il peut être en paix, qu'il peut entrer dans ton royaume simplement par la foi dans le Christ qui est mort pour lui et qui lui donne sa justice. Merci de nous venir en aide, Seigneur, pour être une église qui brille, Seigneur, de l'amour divin. Pardonne, Seigneur, toutes les fois où on est tombé tellement court, Seigneur, par rapport à l'amour, par rapport à nos actes, à nos pensées. Et secours-nous, transforme nos cœurs. Aide-nous à prendre les décisions radicales dans nos vies pour qu'on puisse lutter contre le péché, résister au péché avec la foi que tu nous donnes. Merci, Seigneur notre Dieu, de nous conduire encore aujourd'hui dans notre vie de chrétien. Par Jésus-Christ, je te prie. Amen.